des salutations fraternelles de l'église de Besançon. Comme le rappelait François, on est dans cette époque de l'Avent où on se rappelle de cette attente qu'il y a eu pendant longtemps de la venue du Messie dans le peuple, en tout cas dans le reste fidèle du peuple, qui est aussi cette attente du moment où le Messie va revenir. Et effectivement, on a parlé de cette période d'élection présidentielle. Alors, nous, quand on parle de l'arrivée d'un roi dans la Bible, ça nous parle moins, parce qu'on n'a plus l'habitude des rois en France. Et est-ce qu'on peut transposer à cette période d'élection présidentielle où on attend qu'elle va être le prochain élu ou réélu? Je ne sais pas. En tout cas, moi j'ai un souvenir un peu rigolo de l'élection présidentielle de 2017. Bon, en allant sur Internet, j'étais tombé sur un article qui parlait de tous les petits candidats. Vous savez, les petits candidats, c'est les inconnus du grand public, ceux qui ont dit qu'ils voulaient participer à l'élection, mais qui probablement n'auront jamais leurs 500 signatures et qui perceront jamais dans les médias. Et dans cette liste, en 2017, j'ai vu un nom qui me disait quelque chose. Alors j'étais un peu curieux, je me suis dit « Oh, c'est un hasard, c'est un homonyme ». Mais non, en voyant la photo, je me suis dit « Mince, je le connais ». Et j'ai même le souvenir d'avoir été une fois avec cet homme-là. Alors, au milieu d'une foule, on était à la même table pendant un repas un soir. Il n'était pas du tout dans la politique à l'époque. Hein. Je me souviens même qu'après ce repas, j'ai passé une partie de la soirée à l'aider à chercher son portefeuille, parce qu'il l'avait perdu, et c'était très embêtant parce qu'on était à l'étranger. Alors, je ne vais pas vous dire son nom, de toute façon, ça ne vous dirait rien. Est-ce que vous savez quelle a été ma réaction quand j'ai réalisé que je connaissais un éventuel candidat à l'élection ?
Ministre.
Ah, alors j'ai pas été aussi loin. Mais j'ai quand même eu la pensée de le contacter. Alors que ça faisait une dizaine d'années que je ne lui avais même pas adressé la parole. Qu'on n'avait jamais été vraiment proches, à part à table. Et c'est étrange, après j'ai réfléchi, hein, je me suis dit, c'est étrange ce désir qu'on a de vouloir être proche ou lié d'une manière ou d'une autre à des personnes qui ont du pouvoir, ou qui peut-être auront du pouvoir avec beaucoup de chance dans son cas. Et puis je me suis demandé quelle aurait été ma réaction si en fait je ne l'avais pas vu sur une liste de candidats à l'élection présidentielle, mais sur une liste d'accusés à un procès dans une affaire sordide. Est-ce que j'aurais cherché à nouveau à le contacter ? Et je crains que ma réponse ne soit pas très glorieuse. Bon, cette anecdote un peu amusante a un rapport avec le récit de la vie de Jésus que j'aimerais regarder avec vous ce matin. C'est un récit assez célèbre. C'est le jour où Jésus a fait route vers Jérusalem, monté sur un âne. Alors, ce n'est pas tout à fait de saison, puisque c'est une semaine avant Pâques que ça s'est passé, et on est plutôt quelques semaines avant Noël. Mais il y a quand même des connexions qui se font dans l'idée de l'attente du roi. Alors, on lit ça dans l'évangile de Luc, au chapitre 19. Et je vais commencer la lecture au verset 28. Donc, Luc... Je répète pour ceux qui cherchent dans leur Bible, hein, Luc, chapitre 19, à partir du verset 28. Après avoir dit cela, Jésus partit, suivi de ses disciples, pour monter à Jérusalem. Alors, après avoir lu un verset pareil, il faut tout de suite s'arrêter, parce que ça fait référence à ce qui se passe avant. Après avoir dit cela, après avoir dit... Quoi ? Est-ce que tu veux passer la prochaine diapo ? Merci. Jésus part pour Jérusalem après avoir raconté une parabole. C'est la parabole de la personne qui part en voyage pour se faire couronner roi, avant de revenir dans son pays en tant que roi. Mais pendant qu'il part pour recevoir la couronne, les gens de son pays refusent son règne. C'est un peu ce que j'ai essayé de symboliser ici. Alors, on ne va pas analyser cette parabole, on ne peut pas tout faire, mais c'est le contexte de notre récit. Et bien sûr, quand Jésus parle d'un roi dans une parabole, il fait référence à lui-même. Jésus se présente comme ce roi, pas accepté par son peuple. Et donc Jésus se présente comme ce roi avec cette parabole, et quoi de plus naturel pour lui d'aller vers Jérusalem? Ça, c'est l'image suivante. Jérusalem, c'est la capitale historique des Juifs. Donc c'est un bon endroit pour aller quand on est roi. En plus, dans l'idée particulière que le roi des Juifs qui devait venir devait être un descendant du grand roi David, c'était un grand roi qui avait régné vers moins 1000 à Jérusalem, c'est normal pour lui de se diriger vers la ville de David même pour s'asseoir sur son trône. Ok, ceci étant dit, je reprends la lecture dans l'évangile de Luc. Comme il approchait de Bethphagée et de Béthanie, près de la colline appelée Mont des Oliviers, il envoya deux de ses disciples en disant « Allez à ce village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le et conduisez-le ici. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous ?» vous lui répondrez simplement « Parce que le Seigneur en a besoin. » Ceux qui l'avaient envoyé partirent et trouvèrent les choses comme Jésus l'avait dit. Au moment où il détachait l'ânon, ses propriétaires leur demandèrent « Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent « Parce que le Seigneur en a besoin. » Et ils le conduisirent à Jésus. Après avoir posé leur manteau sur le dos de l'animal, ils y firent monter Jésus. J'arrête la lecture ici pour le moment. L'histoire de l'ânon, ça c'est la prochaine image. À nouveau, Jésus montre par là qu'il vient pour revendiquer le trône. Alors nous, ça ne nous paraît pas évident. On s'attendrait plutôt à le voir arriver. Bon, ça dépend de nos références. Si vous êtes plutôt Disney, vous attendriez plutôt à le voir arriver en carrosse. Ou si vous êtes plutôt des nostalgiques du général de Gaulle, vous auriez plutôt attendu à voir une déesse arriver, si vous savez encore ce que c'est. Ou si vous êtes plutôt reine d'Angleterre, c'est plutôt une Bentley que vous voudriez voir. Mais dans le contexte de Jésus, l'ânon, c'est vraiment le plus indiqué. Pourquoi ? Parce que cette histoire d'ânon fait référence à une prophétie de l'Ancien Testament qui a été écrite 5 siècles avant Jésus. Ah, je crois que c'est la prochaine image, là. Voilà. Sur un parchemin. C'est le prophète Zacharie qui a parlé de cet ânon. Zacharie était en train d'annoncer la libération d'Israël. Et la libération d'Israël de quoi ? La libération d'Israël de l'oppression que lui font subir les nations étrangères. Et pour les contemporains de Jésus, c'est une prophétie qui fait résonner tous les problèmes qu'ils sont en train de vivre. Parce que depuis des siècles, le peuple d'Israël n'est plus n'est plus un pays indépendant, mais juste un sous-royaume ou une province, selon les époques, soumise à des empires gigantesques dont la capitale est loin. Et à l'époque de Jésus, l'empire en question, c'est l'empire de Rome. Zacharie a promis, il y a bien des siècles, qu'Israël serait libéré de tous ces empires. Et quand il parle de ça, il intègre à sa prophétie le verset que je vais vous lire, « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. » On retrouve la fille de Sion dont parlait François tout à l'heure. « Lance des clameurs, fille de Jérusalem. Voici ton roi. Il vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Voilà la prophétie de Zacharie. Alors, avec une prophétie pareille dans leurs écritures, à quoi est-ce que des Juifs opprimés par les Romains pouvaient penser si un homme connu, comme Jésus, arrivait dans la ville du grand roi historique David, monté sur un ânon? Il n'y a pas beaucoup de suspense là. En fait, Jésus sur son âne n'était pas en train d'utiliser un moyen de transport. Jésus était en train de communiquer. Jésus disait, Réjouissez-vous, habitants de Jérusalem. Je suis votre roi victorieux. Je viens. Jésus revendique la couronne. L'attente du roi, cette attente depuis des siècles, symbolisée par ces bougies ici, était en train d'arriver à son terme. Mais souvenez-vous, Jésus, juste avant cet épisode, a raconté une parabole où il parlait d'un roi qui recevait sa couronne, mais qui en même temps était rejeté, refusé par son peuple. Ça, c'est l'image suivante. Alors, il faut s'attendre à ce que son arrivée sur un anneau soit mal reçue. Mais quand on lit la suite du passage dans Luc, on est surpris. Je continue. Hein. Sur son passage, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Comme ils approchaient de Jérusalem, en descendant du mont des Oliviers, toute la multitude des disciples, dans un élan de joie, se mit à louer Dieu d'une voix forte pour tous les miracles qu'ils avaient vus. « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, » disait-il. « Paix dans le ciel et gloire à Dieu au plus haut des cieux. » Je fais encore une pause dans la lecture. On a l'équivalent de l'époque du tapis rouge qu'on a chez nous, les manteaux étendus sur le chemin. Donc c'est plutôt un accueil positif, apparemment. C'est surprenant, parce que Jésus, avec sa parabole, avait plutôt l'air d'avoir une attente pessimiste par rapport à tout ça. Alors on peut réfléchir à tout ça, hein. Qui ne veut pas d'un roi, parce qu'il est question de miracles qu'ils avaient vus, hein. D'un roi qui guérit les malades, comme Jésus l'avait fait, qui ressuscite les morts, qui amène ceux qui collaborent avec l'ennemi détesté, Rome, il amène ces ennemis-là à la repentance. Parce que parmi les disciples de Jésus, il y avait d'anciens collabos. Voilà les miracles qu'ils avaient vus. Donc ajoutez à tous ces miracles qu'ils ont vus, cette espérance de la libération de Rome, cette prophétie de Zacharie, et puis des psaumes aussi. Alors, ils sont en train de citer un psaume là dans les paroles que j'ai lues. Un psaume qui parle de triomphe et de libération accordée par Dieu. Vous avez là un cocktail explosif. De quoi exalter les foules. Pas étonnant qu'ils acclament Jésus. C'est naturel. Mais ça ne cadre pas bien avec la parabole qui annonçait le rejet du roi. Ça, c'est la diapo suivante. Alors, on va laisser cette question résolue, non résolue pour le moment. Et puis, on va continuer la lecture dans le texte de Luc. À ce moment-là, quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule interpellèrent Jésus. « Maître, fais taire tes disciples. » Un petit mot de commentaire par rapport à cette réaction des pharisiens. Les pharisiens, c'était un des clans religieux à cette époque-là. Et donc, on a les religieux qui s'opposent à Jésus. On a l'impression que le reproche des pharisiens est adressé plutôt à la foule, puisque c'est la foule qui devrait se taire. Mais en fait, c'est bien Jésus qui est visé par le reproche. À leurs yeux, c'est Jésus qui est responsable de tout ce bruit, ce branle-bas de combat, à la limite du blasphème. Tu veux changer de diapo ? Ouais, ça y ressemble. Jésus a tout provoqué avec son histoire d'anneau. S'il faut faire taire les disciples, c'est parce qu'ils proclament la royauté de Jésus. Et ça, c'est intolérable. Les pharisiens refusent cette royauté. Ils ne veulent pas en entendre parler. Là, je crois qu'on peut changer du coup. Ah, t'en as plusieurs à la fois, c'est rigolo. Donc finalement, les pharisiens sont bien de ceux qui correspondent à la parabole que Jésus avait annoncée. Ils refusent cette royauté. Alors qu'est-ce que Jésus va répondre ? Jésus ne recule pas, il revendique la royauté, même il l'assume. On lit qu'il répond, donc Jésus leur répondit, « Je vous le déclare, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Alors, c'est une parole un peu surprenante à laquelle il faut un peu réfléchir. Est-ce qu'il est possible que des pierres crient ? Non, bien sûr. Je pense qu'il faut avancer quand même un coup, là. Ah, peut-être encore un coup. Ouais, merci. Non, les pierres, ça ne crie pas. Mais qu'est-ce que Jésus veut dire avec tout ça? Si les disciples se taisent, alors les pierres crieront. Mais c'est impossible que les pierres crient. Donc ça veut dire que c'est impossible de faire taire les disciples. Pourquoi est-ce que c'est impossible de faire taire les disciples? Parce que ce qu'ils disent, c'est vrai, tout simplement. Je suis le roi, dit Jésus. Pourquoi vous voulez faire taire des gens qui me proclament en tant que roi? Inutile de me demander de les faire taire. D'ailleurs, je ne veux surtout pas qu'ils se taisent. C'est moi-même qui suis venu revendiquer la couronne. Jésus ne négocie pas, et quand on ne négocie pas, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un conflit. Le rejet du roi est en route. Mais la réponse de Jésus sous-entend autre chose. Ah, vous voulez faire taire mes disciples. Mais ce qu'ils disent est tellement important, est tellement vrai, c'est tellement inévitable qu'on ne peut pas réduire ce message au silence. Et même si vous mettiez à mort tous mes disciples, l'un après l'autre, pour les faire taire, moi-même je donnerais à ces pierres que voici une bouche pour leur faire parler, pour les faire parler, pour continuer à proclamer ma royauté. C'est un peu dans la même idée que Luc a déjà mentionné le même genre d'image dans la bouche du prophète Jean-Baptiste au début de son évangile. Je vous lis quelques versets. Jean disait à ceux qui venaient en foule se faire baptiser par lui, espèce de vipère, qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu qui va se manifester? Produisez plutôt pour fruit des actes qui montrent que vous avez changé. Ne vous contentez pas de répéter en vous-même, nous sommes des descendants d'Abraham. Car, regardez ces pierres, je vous déclare que Dieu peut en faire des enfants d'Abraham. Voilà ce que disait Jean-Baptiste. Alors, le raisonnement est le même. Vous, descendants d'Abraham, c'est-à-dire vous, les Juifs, vous avez détruit l'héritage d'Abraham en reniant la foi d'Abraham. Mais l'héritage d'Abraham ne peut pas être détruit, parce que c'est Dieu qui le garde. Et même si tous les descendants d'Abraham, les uns après les autres, devenaient infidèles, Dieu prendrait même des pierres pour en faire des descendants d'Abraham, pour faire renaître la foi d'Abraham, pour que le témoignage rendu à Dieu soit maintenu. En gros, ce que Jésus est en train de dire, c'est que le projet de Dieu est en marche et que rien ne peut l'arrêter. Tu crois pouvoir t'opposer au projet de Dieu ? S'il le faut, Dieu va donner vie à des pierres pour faire avancer son projet. Et le projet de Dieu, c'est quoi? C'est d'amener toute la création à se soumettre au règne de Jésus. Donc Jésus est là, sur son anneau, entouré de la foule, en route vers Jérusalem. Que nous dit le texte ensuite? Quand il fut arrivé près de la ville et qu'il la vit, il pleura sur elle. Ah, dit-il, si seulement tu avais compris, toi aussi, en ce jour, de quoi dépend ta paix. Mais, hélas, à présent, tout cela est caché à tes yeux. Des jours de malheur vont fondre sur toi. Tes ennemis t'entoureront d'ouvrages de siège, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils te détruiront complètement, toi et les habitants qui seront dans tes murs, et ils ne laisseront pas chez toi une pierre sur une autre. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas su reconnaître le moment où Dieu est intervenu pour toi. Une parole terrible de Jésus. Oui, l'opposition est en marche, comme la réaction des pharisiens l'a montré, et Jésus annonce le résultat de cette opposition. La catastrophe, la destruction. Jérusalem, la représentante du peuple juif, qui aurait dû accueillir Jésus comme son roi, s'apprête à le rejeter. Mais on ne peut pas empêcher le projet de Dieu qui est en marche. Le projet de Dieu, c'est d'amener toute la création à se soumettre au règne de Jésus. Si Jérusalem s'y oppose, Jérusalem sera détruite. Si seulement elle avait reçu son roi, quelle paix elle aurait connue à ce moment-là. Mais Jérusalem vont s'auto-détruire en repoussant le seul qui pouvait leur donner la paix, Jésus, le roi. Alors c'est une phrase vite dite, hein, Jérusalem sera détruite. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Et Jésus ne cache pas les choses. Guerre, siège, massacre. Souffrance atroce, mort sans nombre. En fait, c'est une réalité affreuse qui est devant eux. Et Jésus ne s'en réjouit pas. Il en pleure. Il pleure sur la ville qui le rejette parce qu'elle appelle sur elle-même la ruine et l'horreur. Et d'une certaine manière, la parole de Jésus sur le cri des pierres se réalise aussi par cette manière. Ouais, c'est l'image suivante. Merci. Les ennemis ne laisseront pas à Jérusalem une pierre sur une autre. Et ce ne sera plus qu'un tas de pierres. Des pierres qui crieront « Voilà ce qui arrive à la ville qui refuse le règne de son roi ». Alors j'ai laissé une question non résolue jusque-là. Tu veux passer à la suivante encore ? Super, merci. La parabole de Jésus annonçait un rejet assez massif de sa royauté. Et pourtant, on a là une foule assez nombreuse qui acclame Jésus, avec quelques voix discordantes au milieu. Et comment est-ce que cet épisode cadre avec la parabole qui annonce le rejet de sa royauté ? En fait, Luc nous donne un indice subtil. Je vais vous lire un autre récit un peu plus loin dans son évangile. Le jour de la fête des pains sans levain, où l'on devait tuer l'agneau de la Pâque, arriva. Jésus envoya Pierre et Jean en leur disant « Allez nous préparer le repas de la Pâque. »« Où veux-tu que nous le préparions ?» lui demandèrent-ils. « Eh bien, quand vous entrerez dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le jusqu'à la maison où il entrera. » Et voici comment vous parlerez au maître de maison. Le maître te fait dire « Où est la pièce où je prendrai le repas de la Pâque avec mes disciples ?» Alors il vous montrera à l'étage supérieur une grande pièce aménagée. C'est là que vous ferez les préparatifs. Ils partirent donc, trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit, et préparèrent le repas de la Pâque. Voilà cet autre récit, et je ne sais pas si vous n'avez pas une impression de déjà-vu en le lisant. C'est l'image suivante. Hein. Jésus qui envoie deux disciples, il leur dit ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent dire, ce qu'ils doivent voir, et qui trouve tout comme Jésus leur annonce. Et qui prépare tout ensuite pour que Jésus puisse venir à Jérusalem. Ah mais oui, c'est exactement la même chose, à quelques détails près, que quand Jésus a envoyé ses deux disciples chercher l'agneau. Tu veux passer à la suivante ? Jésus a fait pas mal d'allers-retours pendant cette semaine-là, dans et hors de Jérusalem. Mais il y a deux entrées à Jérusalem qu'il a soigneusement préparées. Ou en tout cas que Luc prépare soigneusement dans son évangile. Il y a l'entrée triomphale sur l'anneau et l'entrée discrète pour aller manger le repas de la Pâque. Vous savez, ce repas de la Pâque qui annonçait son sacrifice. Le repas de la Pâque où il allait instituer la scène pour préparer le souvenir de son sacrifice. Le repas de la Pâque où il allait dévoiler, sans y résister, la trahison de son disciple, Judas. Jésus vient revendiquer sa royauté à Jérusalem sur l'anneau. Il ne renonce pas à cette revendication, mais il a prévu une étape importante pour arriver à la royauté. Tu veux avancer ? Jésus vient gagner sa royauté à Jérusalem sur une croix. De cette foule qui, le dimanche, l'a acclamé quand il était sur l'anneau, le vendredi suivant, il ne reste personne. La plupart réclament sa crucifixion. Il y a un des 12 qui l'a même vendu. Un autre de ses amis l'a renié. Il a prétendu ne pas le connaître. Et tous les autres se sont enfuis au moment où il était le plus en danger. On peut presque dire que tout ce cortège triomphal qu'on a vu autour de l'anneau était juste une mascarade. Il n'y en a pas un qui a persévéré, pas un seul. Quand Jésus est venu acquérir son royaume, non pas dans le triomphe, mais sur la croix. Alors tout ceci étant dit, arrêtons-nous et réfléchissons. Tu veux avancer un coup encore ? Peut-être que tu es ici et que tu es sceptique par rapport à Jésus. Écoute bien ce que Jésus te dit. Il est impossible d'empêcher mon règne d'arriver. Essaye de faire taire ceux qui t'en parlent. Jésus peut même faire parler des pierres pour te parler. Essaye d'ignorer leurs témoignages. Tu peux même juste passer entre les gouttes en disant « Oh, je ne suis pas pour, je ne suis pas contre non plus. » Peut-être que tu viens à l'église depuis que tu es tout petit. Jésus, ça ne t'intéresse pas trop, mais tes copains sont là, alors tu es là et c'est déjà pas mal. Non, la vraie question, c'est que le règne de Jésus va venir. Et ceux qui ne seront pas pour, attention, ce que Jésus dit est terrible là, ceux qui ne seront pas pour vont devenir un tas de ruines. Et si tu es ce tas de ruines un jour, même ta ruine elle-même va témoigner que Jésus règne malgré toi. Et du coup, l'appel pressant de Jésus, c'est « Ne tarde plus, rends-moi l'hommage qui m'est dû en tant que roi. » Des paroles un peu dures à entendre pour nous qui vivons une période de démocratie. Mais continuons à réfléchir à ce que Jésus avait à dire. Et vous allez voir que c'est pas si choquant que ça, finalement. Mais peut-être que tu n'es pas le sceptique dont je parlais tout à l'heure. Peut-être que tu n'es pas sceptique par rapport à Jésus, mais tu es plutôt enthousiaste pour son règne. Alors, si c'est toi, là, j'ai une question pour toi. Quand est-ce que tu es enthousiaste pour Jésus ? Dans notre texte, là, la foule a vu ou entendu parler de miracles. Et ils sont nombreux ensemble à chanter les louanges de Jésus, à chanter des psaumes. Et, enfin, il faut le dire, c'est facile de chanter la gloire de Jésus quand on est entouré d'autres personnes qui chantent la gloire de Jésus. Et ce matin, à l'église, c'est facile de chanter des chants à Dieu quand on est dans un endroit fait pour ça et on sait qu'on ne risque rien. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Hein. Mais tous, nous tous qui sommes présents dans cette salle, un jour ou l'autre, on est plus au milieu des gens qui chantent Jésus. On est dans une foule hostile à Jésus. Ça nous arrive tous à un moment ou à un autre. Et là, quelle est notre réaction ? Ou alors, des fois, on n'est pas forcément dans une foule hostile à Jésus, mais des fois, on est tenté d'échanger notre allégeance à Jésus contre des petits avantages. Vous savez, comme Judas qui a reçu 30 pièces d'argent. Alors oui, de l'argent, peut-être, pour abandonner Jésus, ou d'autres choses. Une situation, un amoureux ou une amoureuse. Des fois, on nous demande de nous positionner clairement pour ou contre Jésus. Ou des fois, tout simplement, Jésus nous déçoit parce qu'il ne répond pas à nos attentes. On pense que Jésus aurait dû faire un autre choix et qu'on aurait été plus sage que lui. Et on préfère choisir notre voie plutôt que la sienne, notre règne plutôt que le sien. Ce que je veux dire par là, c'est que notre foi en Jésus, elle se teste. Quand on est par exemple au plus profond de la dépression, est-ce que nous maudissons Dieu ? Ou est-ce qu'au contraire, on a ce dernier souffle de foi qui nous fait crier à lui ? Donne-moi la force juste pour survivre aujourd'hui. Sans toi, je suis perdu. Ou autre situation, quand on est dans le succès, que tout nous réussit, est-ce qu'on se souvient que c'est Jésus qui règne? Ou est-ce que notre réussite nous monte à la tête? Ou autre situation, quand on le trahit, parce que ça nous arrive tous de le trahir, quand on a repris la couronne qui lui appartient, combien de temps est-ce qu'on met à reconnaître qu'on l'a abandonné? Combien de temps on met à décider de lui rendre l'autorité et la couronne qui lui reviennent? Jésus nous demande de le suivre, pas seulement quand il est sur l'anneau, pas seulement quand il est entouré d'une foule glorieuse qui le glorifie. Jésus nous demande de le suivre aussi quand il est en train d'accomplir ce que la scène symbolise, la croix. Ouais, c'est le suivant. Pas seulement quand il fait un bain de foule, mais aussi quand la foule le maudit. Pas seulement quand notre foi nous valorise, mais aussi quand notre foi nous coûte. Et pourquoi est-ce que Jésus nous demande ça? Est-ce que c'est que Jésus aime nous voir souffrir? Est-ce que parce que Jésus a besoin de voir des preuves de notre piété, parce qu'il n'est pas tout à fait sûr? Non. Parce qu'en fait, suivre Jésus, c'est le seul moyen de trouver la paix. Trouver la paix, même quand ça coûte. Le règne de Jésus va venir dans tous les domaines. Et il n'est pas possible de suivre Jésus dans la foule qui chante, mais d'échapper au règne de Jésus dans la foule qui le maudit. Jésus règne sur notre cœur tout le temps, ou en fait, il ne règne pas du tout. Moi, je suis marié. Imaginez qu'un jour, je dise à ma femme, je te serai toujours fidèle, sauf quand je trouve une femme plus belle que toi, sauf quand on est fâché l'un avec l'autre. Et puis aussi, sauf quand... Est-ce que vous imaginez que ma femme va répondre « Ah, qu'est-ce que je suis contente d'avoir un mari si fidèle ?» Non. Jésus, règne sur moi, quand ça m'arrange. Si je dis ça, Jésus va me répondre « En fait, c'est toi qui veux régner. Tu ne veux pas que je règne sur moi. » Comment est-ce qu'on peut stimuler notre désir de voir Jésus régner sur nous? Première chose à faire, c'est de le regarder, de l'observer, de le contempler. Regardez-le. Il est venu au milieu des acclamations, réclamer sa couronne, mais il ne s'est pas contenté de ce fameux bain de foule. Il est aussi venu chercher sa couronne en passant par la croix. Contemplez-le, lui qui aurait eu droit et même l'autorité d'établir son règne sans combattre, qui avait droit à la couronne gratuitement, elle lui revenait de droit, c'était non seulement l'héritier de David, mais l'héritier du Père qui est aux cieux. Mais il a accepté de prendre sa couronne par le chemin qui coûte. Il a pris sa couronne en prenant la croix. Pourquoi? Pour la joie plus grande d'honorer son Père et de lui amener un peuple nombreux qui se soumettrait joyeusement à son règne. Parce que si Jésus avait pris sa couronne en descendant de l'anneau, sans passer par la croix, les amis, nous ne serions pas sauvés. Et Jésus régnerait sur un royaume vide. Il aurait pu, il aurait été tout aussi glorieux. Il en a choisi autrement, parce qu'il nous aimait. Alors pourquoi est-ce qu'on voudrait résister à un tel règne? Peut-être que vous vous dites que c'est trop difficile. Je crois que c'est la dernière image. Merci. En fait, Jésus a déjà donné tout ce qu'il fallait pour qu'on puisse le suivre sur cette voie. Les cœurs de pierre, Jésus, à cause de la croix, ces cœurs de pierre, il peut les changer en cœur qui crie sa gloire pour de vrai, et pas seulement quand c'est à leur avantage. Alors je vous invite à le laisser régner sur votre vie. On peut prendre juste un temps de prière, et ensuite on va chanter un chant. Père éternel, merci, parce que si cette couronne a été coûteuse à acquérir pour ton fils, elle a été coûteuse pour toi aussi, parce que donner ton fils était quelque chose qui a été un déchirement pour toi. Et on veut te remercier d'avoir été prêt à faire ce sacrifice pour nous. On te demande de nous aider à ne pas nous laisser nous tromper nous-mêmes, à croire qu'on peut être indépendant, vivre notre vie sans la soumettre à toi. Ne pas croire non plus que si quelqu'un règne sur nous, c'est une oppression. Nous avoir que ton règne sur nous, au contraire, est un règne bon, un règne qui nous sauve, un règne qui nous donne la paix. Donne-nous de plier le genou joyeusement devant toi, en attendant de toi une conduite bonne pour notre vie et la libération. Amen.
Amen.
Le bouton rouge.